Voilà, nous sommes depuis 6 semaines maintenant dispersés, dispersés les uns des autres dans nos foyers respectifs, dans nos lieux de vie. Alors pour certaines familles, ces 6 semaines ont aussi l'opportunité de se rassembler plus intensément, et chez nous aussi au presbytère, ça a été l'occasion de prendre du temps ensemble comme jamais auparavant. Et dans le même temps, nous vivons cette dispersion comme communauté chrétienne, où nous ne nous voyons plus, nous ne goûtons plus à ces liens si forts qui nous unissaient, ces liens de charité, de fraternité, de service. Tout cela est un peu plus difficile. Il y a donc cette dimension d'une dispersion physique extérieure, mais il y a une dispersion qui est plus grave encore. C'est la dispersion intérieure. Lorsque intérieurement même, nous sommes dispersés. Et dans ce temps de grande complexité, d'incertitude, de volatilité, on a l'impression de ne plus savoir où nous allons, et ni même savoir de quoi demain sera fait. Donc il nous est très difficile intérieurement de rester focusé sur une vision, même une vision de société. Aujourd'hui, tout le monde semble complètement dispersé. Et la difficulté de la dispersion intérieure, lorsqu'on ne sait plus où on va, lorsqu'on ne sait plus la direction que l'on prend, eh bien on prend de nombreux chemins, voire on s'arrête, on n'avance plus, on est sans focus. Cette dispersion intérieure, c'est la plus grave. C'est celle qui fait que l'on n'est plus centré sur l'essentiel. Alors la dispersion physique extérieure a évidemment des répercussions sur notre dispersion intérieure. Or, le peuple d'Israël, et même, je dirais, l'Église naissante et croissante, est experte en dispersion. Le peuple juif, déjà lui-même, a connu de nombreuses dispersions dans son histoire, lorsqu'il se retrouvait en esclavage, en Égypte, loin de la terre promise, terre qu'il a fini par retrouver à travers cette grande période de l'Exode. Puis, il y a cette figure des invasions et finalement de l'exil à Babylone. C'est toujours une dispersion. Le peuple chrétien, lui-même naissant à Jérusalem, va connaître la dispersion par les persécutions. Il va se retrouver forcé de quitter Jérusalem et de commencer à répandre la bonne nouvelle du christianisme dans toute la terre promise, la terre nouvelle. Et avec la destruction du second temple, ça va être toute une diaspora chrétienne, judéo-chrétienne même, qui va se répandre dans tout l'Empire romain. Alors dispersion forcée, mais aussi dispersion choisie. Si nous regardons l'histoire de l'évangélisation des peuples, nous réalisons que ce sont des actes de dispersion volontaire à travers des continents, à travers l'Afrique, l'Asie, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud. Autant de missionnaires ont choisi de partir au loin pour être coupés physiquement peut-être des leurs, mais pour être plus connectés à leur Seigneur et annoncer une bonne nouvelle, pour annoncer l'essentiel à toutes les nations. Les prophètes dans l'Ancien Testament avaient déjà compris que la dispersion pouvait être un fléau et même être dangereuse pour le peuple, pour les personnes. Et ils ont trouvé rapidement la cause. Et je vous cite le prophète Ézéchiel. Le prophète Ézéchiel qui nous dit au chapitre 34, les brebis se sont dispersées faute de berger, pour devenir la proie de toutes les bêtes sauvages. Même mon troupeau s'égare sur toutes les montagnes et toutes les collines élevées. Mes brebis sont dispersées dans tout le pays. Personne ne les cherche, personne ne part à leur recherche. Ézéchiel pointe ici que sans berger, sans pasteur, le troupeau est dispersé. Et même dans ce passage d'Ézéchiel, le prophète accuse même les pasteurs et les bergers eux-mêmes d'avoir dispersé, d'avoir utilisé le troupeau à leur profit personnel. Alors, par la parole du prophète, Dieu parle. Il parle en disant, j'aurai soin moi-même de mon troupeau et je m'en occuperai. Dieu lui-même va prendre soin de toutes ces brebis dispersées et abandonnées au milieu des bêtes sauvages. Et il va même prophétiser plus fort encore, je susciterai pour le mettre à leur tête un pasteur qui les fera paître, mon serviteur David. Alors cette prophétie d'Ézéchiel, évidemment, va s'accomplir en la personne de Jésus, qui est à la fois ce fils de David et en même temps cette présence même de Dieu au milieu de son peuple. Dieu lui-même vient prendre soin de ses troupeaux, de son troupeau, de son peuple, à travers le successeur de David. Et nous l'entendions dans l'évangile à l'instant. Jésus finit ce passage. Je suis le bon pasteur, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Il vient donc libérer son peuple de la dispersion. Jésus vient rassembler. Il vient montrer au peuple le visage de miséricorde du Père. Rien de tel qu'une image forte pour aider à retrouver le sens même de son existence, l'orientation même de sa vie. Jésus montre le Père aux hommes et aux femmes de son temps. Et c'est la question de Philippe, montre-nous le Père. Jésus répond, qui me voit, voit le Père. Retrouver un sens, une orientation au milieu de la dispersion. Dans mes jeunes années, il y a quelques années, lorsque j'avais 22 ans, il y a eu un moment charnière dans ma vie où j'ai eu à faire des choix. Et c'était à l'été 2000, je rentrais du Québec où j'avais passé deux sessions en maîtrise d'ingénierie. J'avais vécu plein de belles expériences au Québec. J'avais rencontré une nouvelle culture, j'avais étudié, j'avais découvert un nouveau pays. C'était une phase de ma vie très exaltante, pleine de richesses, pleine d'expériences. J'ai aussi appris à connaître une demoiselle avec qui nous avons eu des fréquentations quelques temps. J'ai un ami qui vivait avec moi, qui s'est même marié avec une Québécoise pendant ce temps-là. Enfin, c'était une expérience très riche. Et puis, il a fallu rentrer en France pour finir ma formation d'ingénieur. Et à l'été de mon retour, c'était les JMJ 2000. Et j'avais le goût de vivre cet événement. C'est la première fois que j'allais pouvoir participer à une journée mondiale de la jeunesse avec des milliers, des millions de jeunes. Donc j'étais très excité à l'idée d'y participer. Il y a eu un moment crucial dans cette journée mondiale de la jeunesse, c'est la veillée à Tor Vergata, au moment où ce vieux pape s'est adressé à nous. Tor Vergata, ça ressemblait à ces grandes prairies d'herbes fraîches, du moins quand on est arrivé, c'était tout vert, c'était splendide. Et puis, au cours de cette veillée, le pape Jean-Paul II a commenté ces paroles de l'apôtre Pierre à Jésus dans Jean au chapitre 6, « Vers qui pourrions-nous aller ?» Et le pape Jean-Paul II a eu cette parole très simple qui est restée gravée dans mon cœur. « Seul Jésus de Nazareth est en mesure de satisfaire les aspirations les plus profondes de nos cœurs. » Seul Jésus de Nazareth est en mesure de satisfaire les aspirations les plus profondes de nos cœurs. Il parlait aux jeunes en disant, « Vous pensez à votre choix affectif. J'imagine que vous êtes bien d'accord. Ce qui compte vraiment dans la vie, c'est la personne avec laquelle on décide de la partager. Mais attention, disait-il, toute personne humaine est inévitablement limitée. Même dans le mariage le plus réussi, on ne peut pas ne pas prendre en compte une certaine dose de déception. Seul Jésus de Nazareth est en mesure de satisfaire les aspirations les plus profondes du cœur humain. » Cette parole est profondément venue m'interpeller et rester gravée en moi. Et toute l'année qui a suivi, elle a été comme, je dirais, la boussole qui m'a guidé dans les choix que j'avais à faire pas à pas en finissant mes études et à décider de prendre une année de discernement, d'entrer au séminaire et de commencer ce cheminement qui s'ouvrait devant moi et dont je ne connaissais pas grand-chose à ce moment-là encore. Mais je sentais une aspiration. Et il a fallu pour cela un pasteur pour me dire cette parole, la dire à moi et à des millions d'autres jeunes. Mais il a fallu un pasteur pour m'aider à retrouver, à refocuser dans toutes les dispersions de ma vie de jeune de 22 ans, toutes les possibilités qui s'ouvraient à moi. Et cette parole m'a aidé à retrouver le roc éternel de mon existence, l'essentiel. Saint-Pierre le disait dans la deuxième lecture que nous entendions, « Vous étiez errants comme des brebis, je me l'applique à moi-même cette parole, mais à présent vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. » Eh bien, c'est ça que fait un bon pasteur. Le bon pasteur, il nous remet l'essentiel sous les yeux. Et c'est aussi à sa mesure ce qu'un prêtre essaye de faire. Il essaye de nous nourrir, de guider son peuple, de le réconforter, de le rassurer, de lui montrer le chemin. Je voudrais pointer simplement trois aspects du ministère du prêtre, de la figure du prêtre en cette journée mondiale de prière pour les vocations. La première, c'est que comme prêtre, comme berger, lui-même se laisse conduire. Lui-même se laisse guider. Et Jésus lui-même s'est laissé guider. Dans la lettre de Saint-Pierre que nous entendions, nous découvrons que Jésus s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Jésus s'abandonne au Père. On voit dans les évangiles Jésus prier longuement, s'abandonner entre les mains de son Père. Jésus lui-même prit les paroles du psaume que l'on a chanté tout à l'heure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Et Jésus conduit à lui pour conduire au Père. Et on l'entendait dans l'évangile. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé, il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Et ce pâturage, les pères de l'Église l'ont décrit comme ce visage de Dieu. Saint Grégoire le Grand décrit le visage de Dieu comme ce pâturage que l'on est appelé à découvrir. Le prêtre donc ne conduit pas à lui, il se laisse guider et il guide vers un autre. Il ne se prêche pas lui-même le pasteur. Saint Pierre lui-même, le premier des 12, on l'entendait dans la première lecture, prêche le Christ. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude, Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Il tourne vers un autre. Premier aspect. Deuxième aspect du sacerdoce, c'est qu'avant d'être en avant, le prêtre est au milieu ou en arrière. Avant d'être un chef, il est un compagnon. Les disciples qui vont entendre la prédication de Pierre dans les actes des apôtres que nous entendions vont le réaliser, ils vont l'appeler frère. Lui-même, ça va s'adresser à eux comme à des frères. Et ils vont lui répondre, frère, que devons-nous faire? Cela nous rappelle que le prêtre est avant tout une attitude fraternelle. On voit Jésus avec ses disciples et ses apôtres prendre soin d'eux. On le voit à la résurrection, Jean chapitre 21, Jésus qui allume un feu, fait griller les poissons et a préparé le lunch pour les disciples qui étaient à la pêche, toute la nuit sans rien prendre. On voit Jésus laver les pieds de ses disciples, on voit Jésus évidemment prendre soin de ces foules affamées. C'est-à-dire que le prêtre est un homme qui sent ses brebis, pour reprendre l'expression du pape François. Il sent l'odeur des brebis. Il vit au milieu d'elles. Il voit de quoi elles ont besoin. Il est ce compagnon qui marche avec le troupeau, qui éprouve ce qu'éprouve le troupeau et se laisse attendrir par ce que vit le peuple de Dieu. Deuxième aspect, il est un compagnon. Et donc, troisième aspect, c'est fort de cela. Et c'est avec cette expérience-là qu'il peut guider. Parce qu'il sait où il va, où il conduit, il sait qui il conduit. Alors il peut guider, encourager, aller vers de l'avant, montrer un peu plus loin. Un rabbin que j'aime bien citer, parce qu'il est assez inspirant au niveau du leadership, explique la différence qu'il y a entre un individu et un leader quand il s'agit de compter. L'individu, lui, compte les jours. Le leader, lui, compte les années. Alors nous, effectivement, ça fait 6 semaines qu'on compte les jours. Hein. Et puis ça commence à faire long, puis on va compter. On a une vision à très court terme, on regarde, et puis on ne peut pas voir tellement plus loin, donc on compte jour après jour. Le véritable leader, les grands leaders, eux, voient beaucoup plus loin. Et le leader qui est le prêtre, lui, voit encore plus loin. Il voit la destinée éternelle. Il sait qu'il ne conduit pas vers lui. Il sait qu'il conduit vers ces pâturages que sont véritablement le visage du Père. Et ça nous aide profondément à nous recentrer, nous refocuser sur l'essentiel. On reprend les paroles de Saint Pierre qui avait reconnu en Jésus, « Seigneur, vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » C'est vraiment une belle prière de prêtre qui reconnaît Jésus comme la source des paroles de vie éternelle. Il s'agit de montrer ce qui est éternel. Demandons cette grâce donc de prier pour les prêtres, prier pour nous, pour que nous soyons en mesure de continuer à nous aider à être moins dispersés, à nous recentrer sur l'essentiel, à retrouver le chemin d'éternité, à retrouver la visée profonde de notre existence au milieu de la dispersion présente. Et je vous invite maintenant, on va ensemble prier pour les vocations, cette journée mondiale de prière pour les vocations. C'est le dimanche du Bon Pasteur, où on demande particulièrement au Seigneur de nous envoyer des prêtres. Alors on va s'afficher à l'écran et on va pouvoir la dire ensemble. Une prière à la Vierge Marie en ce mois de mai, à laquelle nous demandons la grâce de prier, elle aussi, pour les vocations avec nous. Vierge Marie, Mère du Christ prêtre, Mère des prêtres du monde entier, vous aimez tout particulièrement les prêtres, parce qu'ils sont les images vivantes de votre Fils unique. Vous avez aidé Jésus par toute votre vie terrestre et vous l'aidez encore dans le ciel. Nous vous en supplions, priez pour les prêtres. Priez le Père des cieux pour qu'il envoie des ouvriers à sa moisson. Priez pour que nous ayons toujours des pasteurs qui nous donnent les sacrements, nous expliquent l'évangile du Christ et nous enseignent à devenir de vrais enfants de Dieu. Vierge Marie, demandez vous-même à Dieu le Père les prêtres dont nous avons tant besoin. Et puisque votre cœur a tout pouvoir sur lui, obtenez-nous, ô Marie, des prêtres qui soient des saints. Amen.